Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Les manches des fiertés aujourd'hui, c'est quoi? Des dizaines de chars et de ballons publicitaires? Des ensembles qui crachent de la musique commerciale, une foule aseptisée, des corps et des rapports normés. Et des bateaux. Mais ça compte pas. Aujourd'hui, les prides sont devenus le rendez-vous incontournable de la communauté LGBTQIA+ mainstream. Le fashion dégouline par tous les ports. Les slogans commerciaux ont remplacé les banderoles et pancartes subversives. Où est donc passée notre révolte? Nous sommes des meufs, des trans, PD, gouines et fiers, et nous entendons bien ne pas nous laisser gouverner par des principes moraux hérités d'un judéo-christianisme qui nous rejette toutes.
Parce que nous ne cherchons pas à nous intégrer à une société qui de toute façon trouvera toujours une occasion de nous cracher à la gueule, mais à détruire un mode de vie ultra-consumériste et patriarcal qui nous écrase chaque jour. Nous ne pouvons que combattre les LGBTQI-phobies sans combattre les discours, les idées réactionnaires, peu importe qu'elles viennent de droite ou de gauche. Au sein même des communautés LGBTQI, ces idées sont présentes. Nous dénonçons les discours sécuritaires, nationalistes, racistes, xérophobes, islamophobes, putophobes et sexistes de plus en plus présents dans la communauté LGBTQI+, et à l'intérieur même de certaines associations.
Nous ne sommes pas uniquement des personnes gays, lesbiennes, bi ou trans. Il y a parmi nous beaucoup de personnes de nationalité opprimée, des personnes vivant avec le sida, des femmes, des jeunes, des aînés, des personnes sans emploi, sans logement, des sourds et sourdes, des personnes handicapées, des prisonniers, prisonnières, des personnes dépendant des allocations, des minima sociaux. Nous dénonçons la politique raciste, sexiste, antisociale et LGBTI+ phobe du mouvement En Marche.
Nous exigeons l'ouverture des frontières, la régularisation des sans-papiers, un accueil digne et humain pour les migrantes, parmi lesquelles les demandeuses d'asile, LGBTQIA+, l'arrêt des politiques libérales de précarisation de nos vies, l'accès à la PMA pour toutes, des moyens concrets et d'ampleur contre l'épidémie du sida, la révocation des lois contre les travailleurs et travailleuses du sexe, l'abrogation de la mention de genre à l'état civil, l'arrêt des mutilations sur les personnes intersexes, la fin des hospitalisations psychiatriques forcées, l'abolition des prisons, le désarmement de la police et la fin des violences policières.
Refusons de nous rendre invisibles, soyons fiers des multiplicités de nos identités et de leur expression, ne laissons plus personne porter atteinte à nos libertés, à nos corps, à nos désirs, à nos identités, à nos amours. Refusons de nous taire, soyons en colère, passons à l'offensive. Ensemble, nous ripasserons tant qu'il le faudra. Les cagoules roses reviendront.
En 2018, Divergeur organisait la première marche des fiertés brestoises, une pride sur l'eau. Des dizaines de bateaux s'étaient élancés dans la rade sous un soleil de plomb. Parmi les prises de parole, un collectif, les Cagoules Roses, avait lu un texte, dont on vient d'écouter un extrait, pour rappeler l'origine des Prides, leur vision du militantisme queer et dénoncer les récupérations politiques et capitalistes des mouvements LGBTIQ+. Cette année, 2019, on se rappelle l'origine de la marche des fiertés, 50 ans après les émeutes de Stonewall. Le 28 juin 1969, des policiers en civil font une descente dans le Stonewall Inn, un bar connu et fréquenté par des drag queens, des hommes efféminés, des femmes trans, des personnes racisées, des jeunes, des pauvres, des travailleurs et travailleuses du sexe. Ils laissent repartir une bonne partie de la clientèle, mais retiennent les personnes sans papier ou portant des vêtements ne correspondant pas au genre assigné à leur naissance. Ce n'était pas la première descente policière dans le bar. Pour rappel, dans les années 60 à New York, il était interdit de servir de l'alcool à des homosexuels, de danser entre hommes ou encore de porter des vêtements ne correspondant pas au genre assigné à la naissance. Mais cette fois-ci, face aux brutalités policières, des affrontements éclatent devant le bar, contraignant la police à s'y réfugier, bientôt assaillie par de nombreux et nombreuses gays, lesbiennes, trans et par le voisinage. L'émeute dure plusieurs heures, opposant jusqu'à 2000 personnes face à 400 policiers. Les jours suivants, la foule continue à s'amasser devant le Stonewall Inn et les affrontements avec les forces de l'ordre continuent. Ces événements sont devenus un symbole des luttes d'émancipation gay et trans et sont souvent présentés comme le déclencheur des mouvements de libération LGBT qui ont fleuri au cours des années suivantes dans divers pays occidentaux. Mais que sont devenues les marches des fiertés aujourd'hui? De nombreuses personnes dénoncent le pinkwashing dont font l'objet les Prides. Samedi 8, je suis donc allée à la marche des fiertés et à la Pride de nuit de Rennes pour capter les ressentis des manifestants. Plus de 3000 personnes s'étaient retrouvées sur la place des Champs Libres, au cœur du village associatif LGBTI, sous un temps magnifique l'après-midi. Le soir, on était environ 150. Immersion dans cette journée de lutte et des fiertés.
Je suis à la Pride institutionnelle, là, ça me fait un peu chier, mais ouais.
Pourquoi ça te fait chier?
Ah, parce que c'est prévu, c'est encadré.
Comment s'est passée la marche des fiertés de Rennes pour vous?
C'était très bien, notre banderole était vraiment la plus belle, la plus réussie. Ça disait, pas de commémoration, sans vengeance, nous ne reposerons pas en paix. Et sinon, on a eu le temps avec nous, c'est une vraie chance. Les Brestois se plaignent du soleil, c'est plutôt bon signe.
Bah je sais pas, peut-être un peu trop de commerce pour la première Pride que j'ai pu faire.
Comment ça, des commerces?
Bah un peu trop, je sais pas, de grands chars, et c'est peut-être pas ma vision de la Pride.
Trop commercial.
Trop de pubs, de pause.
Toi, trop commercial?
Bah assez de slogans, pas assez de militants. Trop pour faire...
voilà. Trop la fête, quoi.
Il y avait quand même quelques slogans.
Ça suffit pas beaucoup, hein.
Il y avait quoi comme slogan?
La retraite à 20 ans, mais ça prend du temps.
Comment s'est passée cette marche des fiertés rennaises 2019 pour toi?
C'était un peu comme traverser le désert mais à plein. Et sans trop savoir pourquoi on traversait le désert des fois. Et sans trop comprendre qui étaient les autres gens des fois aussi. Voilà. Il y avait quelques moments bien.
T'as des exemples?
Oui. De crier « Nous détruirons votre société » devant un grand magasin, ça c'est bien. Enfin, ça fait plaisir d'être à plein et... Enfin, en fait, juste de pouvoir dire ça, des fois.
C'était un peu lent. On s'est beaucoup arrêté, tout ça. Ça n'a pas duré très longtemps. On n'a pas le droit d'aller dans le centre-ville parce que... Faut pas faire non plus trop faire chier les gens. Et... Mais du coup, on va avoir plutôt la Pride de nuit ce soir.
Ce sera quelle ambiance, la Pride de nuit?
Je sais pas, on va voir ce que les flics vont nous laisser faire.
On n'oublie pas, on pardonne pas.
Parce que là, on est combien?
Là, on est au moins 3000, non? On pardonne pas. Je pense à l'autre Pride, il y aura 150 personnes maximum.
Je suis arrivé en retard. Je suis arrivé à 16h. J'ai vu que le cortège radical qui s'était organisé à la fac était passé devant le cortège de personnes réfugiées organisé par Esquis et ça m'a énervé. Donc on a été leur dire à 3 qu'il fallait passer derrière et ça c'est fait. Donc au final c'est pas mal. Mais après j'étais aigri pour à peu près 24h donc j'ai envie de te dire à demain. Tu vois.
Est-ce que tu seras à la Pride de nuit ce soir?
Absolument.
Ça va être quelle ambiance, tu penses, par rapport à...
Le centre-ville.
On va probablement essayer de prendre un petit bout du centre-ville. Ce qu'on s'est dit en informel, c'est qu'on n'avait pas envie de faire un truc dangereux pour les potes qui viennent, quoi. Et qu'il y aurait une petite prise de parole au début pour expliquer un peu comment ça va se passer, expliquer de se faire gaffe les uns les unes aux autres. Rester groupé, pas rentrer seul chez soi, pas se disperser, pas aller se confronter avec les flics s'il y a des potes trans ou réfugiés qui sont là, ce genre de choses. Mais je pense que ça va être trop cool parce qu'il y aura tous les potes qui bossent cet après-midi et qui ne pouvaient pas être à la Pride et qui seront là ce soir.
La Pride n'est pas qu'une fête. La Pride est un espace de lutte. La Pride est l'occupation de la rue par celles qui en sont exclues. La Pride est un moment d'union pour une communauté discriminée, tuée, moquée. La Pride ne doit pas devenir une case sur un planning de marketing stratégique. Si certaines voient seulement en la marche des fiertés les paillettes et les couleurs vives, il ne faut jamais oublier leur signification. Les multiples couleurs à l'image de la diversité de notre communauté et les paillettes pour rappeler que malgré la volonté de nous invisibiliser ou bien de nous coller une image négative voire dégoûtante, nous continuons de briller et d'assumer notre identité. Le queer est une position de départ pour attaquer la norme et même une position de départ pour comprendre et attaquer les modes de reproduction et de réitération de la norme. En déstabilisant et en problématisant la normalité, nous pouvons déstabiliser et mettre à mal la totalité. L'histoire des queers organisés a confirmé cette position. Les personnes les plus marginalisées, les personnes trans, les personnes racisées, les travailleurs et travailleuses du sexe, ont toujours été les catalyseurs des émeutes explosives de la résistance queer. Ces explosions ont été associées à une analyse radicale affirmant sans concession que la libération des personnes queer est intrinsèquement liée à l'anéantissement du capitalisme et de l'État. Il n'est donc pas étonnant que les premières personnes à se prononcer publiquement sur la libération sexuelle dans ce pays aient été anarchistes ou que celles qui aient lutté au siècle dernier pour la libération queer ont lutté contre le capitalisme, le racisme, le patriarcat et l'empire. C'est notre histoire. Pendant la marche des fiertés, je suis surtout restée dans le premier tiers du cortège entre l'énorme drapeau arc-en-ciel et le cortège de personnes réfugiées. L'ambiance était radicale, politisée et ça s'entendait dans les slogans. Pour autant, elles étaient nombreuses à ne pas vouloir se contenter d'une pride institutionnelle, la jugeant trop commerciale, trop technoparade, pas assez militante.
Dans la continuité là, de la pride, enfin, de la marche des fiertés de Rennes, il y a une marche de nuit, une pride de nuit. Pourquoi est-ce qu'il y a une pride de nuit ? Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi ?
Oui, bah déjà, c'est dans la continuité de plusieurs prides de nuit qui ont été faites en France et ailleurs. Une pride de nuit, souvent dans la tradition, en fait, c'est une pride qui veut justement se séparer de tout ce qui est techno-parade, pinkwashing, pour enlever un peu l'espace publicitaire, pour laisser respirer les gens, pour laisser les gens avoir scandé leurs revendications sans qu'il y ait Durex ou je sais pas quoi qui fasse sa pub derrière. C'est aussi dans ce contexte-là, on est aux 50 ans des émeutes de Stonewall, le 28 juin 1969. Ce soir-là, l'organisation officielle LGBTI de Rennes, qui a des controverses en fait sur plusieurs points, notamment une espèce d'alliance avec la mairie qui à côté se permet d'être transphobe et tout, enfin pas l'association mais la mairie, qui malgré ses revendications ne fait pas grand chose, par exemple pour la l'accès à la PMA pour toutes, se permet de faire en fait une Nose Pride qui est un événement festif. Et le gros point noir en fait de cette Nose Pride, c'est que le ticket est à 15€. Et d'un seul coup, on se dit bam, où est-ce qu'elle est l'inclusivité là-dedans, quand on sait qu'énormément de personnes LGBTI sont précaires et ne peuvent pas se permettre en fait de s'amuser comme ça. Après, voilà, le but, c'est pas non plus de faire un contre-pied aux autres soirées queer qui ont été organisées. Normalement, par exemple, il y a une soirée entre personnes trans qui a été organisée dans je sais plus quel espace à Rennes. Et du coup, c'est pour toutes ces raisons-là.
C'est quoi le message qui est envoyé quand on organise une pride de nuit ?
Le message, c'est de dire que... on est déjà en fait, on n'est absolument pas satisfait de la récupération politique et capitaliste qui est faite de nos fiertés, de nos identités, que des publicitaires en fait nous utilisent, nous les transpédéguines, comme des arguments en fait marketing. C'est quelque chose que nous refusons et auquel nous opposons en fait directement. Et la Pride de nuit aussi, ça permet de récupérer en fait l'espace, notamment par exemple le centre-ville, où justement on montre en fait que cet espace il est à nous et qu'on en a assez des agressions, on en a assez des publicités, on en a assez en fait que des partis, des syndicats, des entreprises se servent de nous pour se donner une image progressiste et finalement en fait on n'a rien à foutre de ce qu'on de ce qu'on vit. Et il y a toutes ces raisons là.
Est-ce qu'il y a déjà eu des prides de nuit à Rennes?
Je connais pas trop Rennes, je suis pas là depuis longtemps. Je connais pas trop l'histoire de Rennes. Est-ce qu'il y a déjà eu des prides de nuit à Rennes ?
A priori, non, je crois pas.
Comment, là, on n'a pas encore commencé la pride de nuit. Comment est-ce qu'on sent cette pride de nuit dans le contexte, je sais pas, répressif actuel ?
On espère que ça va bien se passer. On espère qu'il n'y aura pas de présence policière qui pourrait mettre en danger les personnes les plus précaires du cortège. Et on va faire attention à ça. Et on va tout faire pour que ces personnes ne risquent rien pendant ce moment de manifestation.
T'as vécu la Pride tout à l'heure, la Pride cet après-midi?
J'avais un peu deux penchants qui prenaient le dessus, l'un, le pas l'un sur l'autre, en fonction des moments. J'avais un truc un peu de... Allez, c'est cool de voir autant de diversité et des gens comme moi, et des gens qui sont... Enfin, tu vois, un truc un peu de... ça fait chaud au cœur quand même, quoi. un truc de bon, c'est pas assez politisé. Et puis, ah tiens, c'est quand même été Roland malgré le fait qu'on soit en, enfin, malgré le fait qu'on soit en Pride, merci quoi. Donc voilà, donc c'était un peu entre deux trucs quoi. Mais voilà, j'ai trouvé cool, j'ai vu plein de potes. Voilà.
Et là ce soir, c'est la Pride de nuit. Comment tu le sens? On vient de commencer, juste là, je sais pas quelle heure il est, presque 22h, on arrive en centre-ville, comment tu le sens?
Bah là ça sent le gaz de je sais pas quoi qui vient d'être...
Non, c'est pas les lacrymos du tout, c'est les fumigènes.
Fumigènes, voilà, chercher le mot. Ça sent les fumigènes, là actuellement ça sent le fumigène, il y a un fumigène orange qui vient d'être lancé, très joli. Voilà. Comment je le sens? Bah on est assez nombreuses, donc c'est cool. Voilà. Il fait beau.
Les pétales contre le capital. Les goudous contre Picsou, les trans contre la finance, les inters contre les ministères, les bi contre le FMI.
Si l'histoire prouve quelque chose, c'est que le capitalisme a la fâcheuse tendance à récupérer et à pacifier les mouvements sociaux radicaux. Cela fonctionne en fait assez simplement. Un groupe gagne des privilèges et du pouvoir au sein d'un mouvement, puis s'empresse de trahir ses camarades. Quelques années après Stonewall, les gays blancs et bourgeois avaient complètement marginalisé toutes celles qui avaient rendu leur mouvement possible et les avaient abandonnées, elles eux et leur révolution. Elle est bien loin l'époque où être queer signifiait le conflit direct avec les forces de contrôle et de domination. À présent, tout n'est que stagnation et stérilité absolue. Comme toujours, le capital a récupéré les queens des rues jeteuses de pierres pour les changer en politiciennes et activistes proprettes. Tout comme on parle de log cabin Republicans, on trouve des démocrates gays tendance Stonewall. Il y a des boissons énergétiques gays et une chaîne de télévision queer qui livre une guerre sans merci contre les esprits, les corps et l'estime de soi de la jeunesse influençable. L'establishment politique LGBT est devenu une force d'intégration, de gentrification, de capital et de pouvoir d'État. L'identité gay est devenue à la fois un produit commercialisable et un dispositif de retrait de la lutte contre la domination. À présent, ils ne critiquent pas le mariage, l'armée ou l'État. Au contraire, des campagnes sont menées en faveur de l'intégration des queers en leur sein. Leur politique consiste à défendre ces institutions ô combien nocives plutôt qu'à chercher à les anéantir. Les intégrationnistes ne veulent rien de moins que construire l'homosexuel comme un être normal, blanc, monogame, riche, avec 2,5 enfants, un 4x4 et un pavillon de banlieue. Cette construction, bien sûr, reproduit la stabilité de l'hétérosexualité, la blancheur, le patriarcat, la binarité de genre et le capitalisme en soi. Si nous voulons vraiment pulvériser cette totalité, nous devons créer la rupture. Nul besoin d'être intégré dans les institutions du mariage, de l'armée ou de l'État. Nous devons les supprimer. Ça suffit les politiciennes gays, les PDG gays et les flics gays. Nous devons rapidement et immédiatement élargir le fossé entre politique d'intégration et lutte pour la libération. À Rennes, pendant la marche des fiertés, j'ai rencontré un jeune réfugié. Il a quitté son pays, le Burundi, car il encourait jusqu'à 15 ans de prison. Il me semblait important de diffuser un extrait de son témoignage. Vous pourrez retrouver le témoignage complet via la page Facebook, le site ou le Mixcloud de Radio U. Comment s'est passée la Pride là à Rennes pour toi?
Bah, ça a été superbe parce que c'était la première Pride. Et j'étais tellement content et voir les personnes comme moi, LGBTI, Q, machin chose, marcher dans leur fierté et montrer leur visage, genre dire nous sommes là, vous n'allez pas nous mettre... dans une autre place, on est là, on va rester là. Et ça a été pour moi un grand plaisir, quoi.
Tu disais, c'est la première Pride, c'est ta première Pride pour toi?
Bah oui, pour marcher dans la rue et genre exprimer ma fierté, c'est la première fois. Parce que dans mon pays, le Burundi, on ne fait pas ça. On fait dans les cadres genre administratifs, soit dans nos... structure de nos associations qu'on enregistre illégalement et puis on fait ça, on donne des invitations, on ne fait pas genre la manifestation dans la rue quoi. C'est genre comme une dîner LGBT quoi, je dirais ça.
C'est quoi la situation au Burundi, les lois, comment ça se passe?
Mon ami, il y a une loi qui punit les homosexuels au Burundi. Pour les trans et intersexes, ces gens-là n'existent pas. La dernière fois que j'ai dû mettre à jour que les trans et intersexes existaient, j'ai dû fuir mon pays et être exilée ici.
Donc t'es venue ici, c'est pour des raisons politiques?
Exactement. Okay. J'avais un avis de recherche.
Ah ouais.
Ouais.
T'es arrivée quand en France?
Pour la première fois ou bien pour mon exil. C'était en 2018, août, mais je croyais que j'allais repartir dans mon pays jusqu'à ce que mon avocat me contacte et me dise bah, « ne reviens pas parce que là, il y a le gouvernement, il y a le mandat d'arrêt. Si on te prend, c'est sûr, on ne va pas te condamner pour l'homosexualité vu que tu n'es pas homosexuel. » On va te condamner pour les trucs contre la mœurs burundaise et autre chose. Et au total, j'allais cobler plus de 15 ans d'emprisonnement.
Les textes lus tout au long de l'émission viennent du livre « Vers la plus queer des insurrections ». De nombreuses personnes queer et LGBTI dénoncent le manque d'une critique radicale des orientations politiques LGBTI et les récupérations politiques et capitalistes des luttes et des identités LGBTI. Pour aller plus loin, vous pouvez lire l'article « À vendre Pride coloré dans une ville pittoresque » sur le site faitpasgenre.fr ou encore « De Stonewall à aujourd'hui, quelle marche des fiertés » sur le site simonae.fr. Sur la plateforme radiorageuse.net, vous retrouverez de nombreux podcasts sur les luttes queer et LGBTI et sur la mémoire des luttes.